Bonjour à chacun, et puis, en tous les cas, à chacune et à chacun, une très très bonne année, mais surtout que ce soit une année qui soit bénie de la part de notre Seigneur, que vous puissiez encore être agréablement surpris par ce que le Seigneur en réserve pour vous, parce que il y a de nombreux textes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui nous disent que ce que le Seigneur en réserve pour nous, ou ce que le Seigneur voudrait déverser sur nous, dépasse en fait notre imagination. En plus, il n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour continuer à être au bénéfice de ce que le Seigneur veut déverser sur nous et en particulier ses bontés. Le texte que j'aimerais vous lire ce matin est tiré de l'Épître aux Hébreux. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir au chapitre 11 et je commencerai au verset 32 et je poursuivrai jusqu'au verset 3 du chapitre 12. L'auteur dit: le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leurs morts ressuscités pour leur être rendues. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. On peut difficilement échapper au début d'une nouvelle année d'apporter une prédication naturellement sur la nouvelle année. Et la tentation est forte de parler des résolutions et des décisions qu'on peut prendre au début d'une nouvelle année, qu'on voudrait mettre en pratique tout au cours des 12 mois à venir. Malheureusement, lorsqu'on parle à beaucoup de personnes, on se rend compte qu'il y a une majorité en fait de personnes qui, au début de l'année, se disent: cette année, je vais quand même faire les choses différemment, ou voilà tel projet que je vais me donner. Mais lorsqu'on parle à ces mêmes personnes, le mois de février venu, elles ont déjà renoncé en grande partie à ce qu'elles voulaient faire, et même la plupart ont oublié ce qu'elles avaient résolu de faire au lendemain du 1er janvier. Et donc l'homme vit constamment dans cette espèce d'ambiguïté où d'un côté il aimerait faire des choses et il se donne des projets à réaliser, et de l'autre côté, pour X raisons, il n'arrive pas à suivre et il n'arrive pas à les mettre en œuvre et à les exécuter. Mais je voudrais moi-même profiter de cette occasion du Nouvel An pour méditer les versets, et en particulier les 3 premiers versets du chapitre 12, là, que j'ai lu. Car il est fort à parier que vous-même aujourd'hui, que ce soit hier ou aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, aurez en vous-même le sentiment, même s'il est un peu lointain, que vous laissez quelque chose derrière vous, l'année 2011, et beaucoup d'entre nous sommes certainement très contents de laisser l'année 2011 derrière nous, avec tout ce qui s'est passé. On a l'impression d'être au début de quelque chose de nouveau, une nouvelle année commence. Et peut-être certains d'entre nous ont au fond du cœur tout simplement le désir de vouloir commencer quelque chose de nouveau, ou même peut-être plus encore de se dire, est-ce que j'aurai la chance de recommencer quelque chose que j'ai loupé dans le passé? Et ça, ce sont des sentiments qui nous viennent constamment, que ce soit le 1er janvier ou au cours d'autres périodes de notre vie, particulièrement dans des moments de crise, c'est que nous sommes bâtis d'une certaine façon, qu'il y a des moments où on se dit, on laisse des choses derrière nous, on regarde vers l'avenir, et il y a des moments où tout simplement, est-ce que l'avenir me permettra de recommencer certaines choses ou de rattraper des choses que je n'ai pas pu faire. Et c'est comme ça que l'homme est fait. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est un fait avéré que l'homme est une créature qui est dotée de ce pouvoir assez extraordinaire comparé au reste des animaux. Il est capable d'imaginer et de rêver. L'homme est capable de former des projets et de se fixer des objectifs pour les réaliser. Et plus encore, il est capable de se donner les moyens de les réaliser. Et lorsque je pensais à ça, il y a un exemple qui me venait à l'esprit, peut-être un peu plus pour les plus anciens que pour les plus jeunes, mais le président John Kennedy, en 1961, il a foutu la trouille à tout le monde, à tous les ingénieurs et tous les gens de la NASA, parce qu'il a dit, avant la fin de la décennie, les Américains auront envoyé un homme sur la Lune et l'auront ramené sain et sauf. Et tous les ingénieurs de la NASA étaient là, mais il s'est dit, mais il est dingue. Il est dingue. Comment est-ce qu'on va pouvoir envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf? Sans parler du fait que les Soviétiques avaient déjà pris de l'avance eux-mêmes sur la conquête spatiale. Mais à un moment, un homme a eu cette idée, ce rêve, cette imagination, quelque chose de complètement fou, comme aujourd'hui, on dirait, il est quasiment inimaginable aujourd'hui de se dire on peut envoyer un homme sur Mars et le ramener sain et sauf. Parce que déjà, il faudrait, je crois, 6 ou 7 mois ou même plus que ça pour arriver jusque là-bas. Puis ensuite, pour le ramener, est-ce qu'un homme pourrait éventuellement tenir le coup et revenir? Mais l'homme a cette capacité de pouvoir imaginer et rêver. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Dieu lui a donné la capacité de se dire, tu as du temps devant toi pour agencer un certain nombre de choses et réaliser un certain nombre d'objectifs. Il y a des choses qui sont en devenir. Tout n'est pas tout simplement tout cuit et à disposition. Il y a des choses que nous pouvons façonner et réaliser. Et il y a des moments où tout simplement, on ne fait rien et donc des choses n'adviennent pas. Ainsi donc, on pourrait se poser la question, et je la pose à chacun d'entre nous au début de cette année, simplement pour profiter du fait que c'est un commencement. Mais comment est-ce que nous regardons notre avenir? Que contient notre avenir, que ce soit l'avenir à court terme ou plus loin? Est-ce que nous avons des projets? Souvent, on se dit plutôt que nous réserve l'avenir, comme si on était toujours au bénéfice de quelque chose qui nous venait. Mais pourtant, l'avenir est composé généralement de choses que les hommes accomplissent et réalisent, en grande partie. Mais est-ce que vous avez des objectifs pour votre avenir et pour l'année 2012? Ou est-ce que tout simplement vous êtes dans une position où on dit « que nous réserve 2012 ?» Et c'est la question que tout le monde se pose ce matin à la radio et à la télévision. C'est de se dire « est-ce que la crise va continuer ? Est-ce que en Irak ça va se stabiliser ? Que vont faire les Iraniens ? En Égypte et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont voter ?» On se dit toujours « on est plus sur le côté de recevoir que de façonner ». Mais la question auquel on peut aussi se poser, c'est se dire, est-ce que les projets ou le futur que nous imaginons pour nous-mêmes, c'est simplement des choses que nous faisons ou que nous recevons, ou est-ce que nous imaginons aussi un futur pour notre propre personne? Est-ce que demain nous serons une personne différente de la personne que nous sommes aujourd'hui? Et c'est presque la question la plus importante. Parce que je pense que c'est là que l'Écriture porte son attention. Et j'y reviendrai plus tard. Mais je pense que Dieu porte d'abord son attention sur qui nous devenons en Jésus-Christ, avant même qu'il se pose la question « qu'est-ce que tu vas accomplir dans la vie ?» Bien sûr, il prête attention et ça lui importe ce que nous faisons. Mais il est peut-être moins préoccupé par les activités et les projets que nous façonnons et que nous réalisons, que par tout simplement qui nous devenons sous l'action du Saint-Esprit en lui. Et combien d'entre nous, lorsque nous avons pensé à notre année 2012 ou dans un avenir proche, est-ce que d'abord et avant tout nous disons « je souhaiterais être une personne différente ». Je souhaiterais que l'œuvre de Dieu se poursuive en moi par son Saint-Esprit et qu'au 31 décembre 2012, je puisse regarder sur le 1er janvier 2012 et me dire « voilà le chemin que j'ai parcouru moi dans mon cœur avec le Seigneur et je ne suis plus la même personne sous l'action de son Saint-Esprit ». C'est là, certainement, une des choses différentes que nous apporte la Bible lorsqu'elle nous interpelle sur comment nous contemplons notre avenir par rapport à la façon dont le monde le fait. Notre texte que nous avons lu ce matin sur le fait de courir pour remporter un prix n'est pas un texte isolé dans le Nouveau Testament. En fait, cette image qui est utilisée de la course et du sport est une image que non seulement l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais aussi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont utiliser. Et pour eux, c'est une image parfaite et très adéquate pour parler en fait de la vie spirituelle et de la vie du chrétien. Et ce qu'il y a, la première chose qu'il faut vraiment noter, c'est tout simplement qu'en utilisant cette image, toute la question de notre avenir et la question de nos projets et de nos objectifs ne sont plus simplement une question humaine et de nos propres choix. On se rend compte que ça devient plutôt quels sont les projets que Dieu a pour nous. Et ainsi donc, au début de l'année, lorsque vous regardez votre avenir, est-ce que vous dites simplement « voilà ce que je vais faire » ou est-ce que vous posez la question à savoir « quels sont les projets que Dieu a pour moi ?» Ces projets d'avenir dont il est parlé dans Jérémie, ces projets de paix et de bonheur. La question est donc non plus simplement « quels sont mes propres projets ?» Mais à quoi est-ce que le Seigneur m'appelle? Et pour vous qui avez lu le Nouveau Testament et qui l'avez fréquenté pendant un certain temps, vous savez bien que la notion de l'appel du chrétien est quelque chose de fort. La vocation et l'appel n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques personnes seulement. Bien sûr, il y a des appels spécifiques à certains ministères, certains types d'actions, mais tous les chrétiens sont appelés. Tous les chrétiens sont appelés. Et le premier appel qui leur est adressé, c'est de vivre d'une manière digne de l'œuvre qui est en train d'être faite en eux par le Saint-Esprit et du fait qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est là le premier appel qui est adressé à tous les chrétiens. Donc nos projets ne sont pas simplement humains, ils deviennent des projets divins. Nos projets ne sont pas simplement ce que je veux faire pour moi dans ma propre vie, mais c'est plutôt comment est-ce que je réponds à un appel que le Seigneur m'adresse. Mais là encore, si on regarde ce texte, c'est qu'on se rend compte d'une chose extrêmement importante, c'est que l'horizon dans lequel Dieu nous demande de réfléchir et de nous projeter n'est pas l'horizon de l'année 2012 seulement. Ce n'est pas simplement les 3-4 prochaines années, le temps de passer un cycle universitaire ou de passer une étape dans notre carrière professionnelle ou d'avoir des enfants puis ils seront à l'école après. Non, l'horizon que le Seigneur lui propose pour tous les projets que nous nous fixons et auxquels il nous appelle va jusque dans leur achèvement, que ce soit un achèvement qui soit temporaire par notre mort en attendant que le Seigneur ressuscite tout le monde, ou alors par le retour du Seigneur. C'est ça l'horizon que le Seigneur nous donne de réfléchir. Ainsi donc, nos projets ne devraient pas être des projets qui s'arrêtent simplement à l'année 2012, qui soient limités dans le temps, mais ce sont des projets qui durent toute notre vie. Qui durent toute notre vie. Et il n'est jamais trop tard pour commencer ces projets, et il n'est jamais trop tard pour continuer ces projets dans notre propre vie, et de continuer à répondre à l'appel que le Seigneur nous adresse. À aucun moment est-ce que le Seigneur nous dit « ça y est, maintenant tu peux t'arrêter, regarde en arrière tout ce que tu as fait, maintenant tu fais une pause, repose-toi, et puis non. » Jusqu'au bout, l'apôtre Paul a dit « je cours cette course, Je cours cette course parce qu'il y a toujours quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Ainsi donc, si vous posez la question vous-même de vos propres résolutions pour 2012, ben je suis au regret de vous dire que si vous prenez l'écriture sérieusement, Dieu s'immisce dans vos projets. Dieu veut s'immiscer dans vos propres projets. Et que les questions que vous vous posez pour 2012, ce n'est pas tellement des questions de votre vie pratique et de votre vie terrestre. Ce sont des questions d'ordre spirituel. Ce sont des questions d'ordre de vocation et de l'appel que le Seigneur vous adresse. Et encore une fois, considérez-vous que si le Seigneur vous appelle, ce n'est pas tellement pour vous embêter, c'est qu'il a la capacité d'aller appeler chacun d'entre nous individuellement pour nous appeler à devenir cette créature merveilleuse qu'il avait en tête lorsqu'il nous a créés. Nous sommes tous capables en Jésus-Christ de devenir ces êtres parfaits et extraordinaires dans sa création et dans sa régénération. Nous sommes tous capables, par les dons que le Saint-Esprit nous donne, d'exercer des services et des ministères dans l'Église qui ont des répercussions dans la vie des personnes et dans la vie de l'Église qui vont jusque dans l'éternité parce qu'elles sont d'ordre spirituel. Et je crois qu'aucun texte, de ce que je me souvienne, ne disent « certains sont peut-être mieux équipés que d'autres » ou « le Seigneur préfère certaines personnes à d'autres ». Ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Parce qu'il a en tête quelque chose d'extraordinaire. Il ne nous appelle pas comme on appelle quelquefois nos enfants pour venir « tiens, viens, là, c'est la discipline, je te garde tout près de moi pour te garder à l'œil ». Il nous appelle dans le sens de nous élever, et de nous élever à ce statut qu'il a en tête et que nous n'imaginons même pas, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Et oui, ça peut nous paraître énorme. Et lorsqu'on lit tout le chapitre 11, là avant, je ne l'ai pas lu en entier, on peut se dire, mais quel rapport entre moi et un Noé ? Je veux dire, Noé quand même, c'était du gros calibre. Abraham, le père de tous les croyants. David, les prophètes, c'est tous des gens d'exception. Mais si on est attentif dans ce chapitre, on se rend compte que vers la fin, l'auteur élargit et ne nomme plus des personnes en particulier, mais il parle d'hommes et de femmes, de prophètes, de gens qui avaient la foi. Et il les met tous dans ce même sac de gens qui avaient la foi et qui ont marché avec le Seigneur, qui ont saisi ses promesses, qui ont remporté des victoires, et quand elles ne l'ont pas fait, elles ont réussi à persévérer, même jusque dans la mort, parce qu'elles contemplaient de loin cette patrie qu'elles souhaitaient recevoir. Donc le chapitre 11, et ce à quoi nous sommes appelés, ce n'est pas simplement pour des gens d'exception, c'est pour chacun d'entre nous. Alors notre texte, moi je trouve qu'il nous aide énormément, si on veut regarder notre avenir, notre année 2012 et l'avenir plus loin, de la façon dont le Seigneur nous invite à le faire. Et j'aimerais relever quatre éléments dans ce texte. La première, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut un petit peu recadrer notre perspective. Il nous faut élever notre regard. Il ne faut pas nous laisser simplement être pris dans l'année 2012 et dans les événements qui vont se passer, ou dans nos préoccupations terrestres. Mais il faut arriver à replacer notre vie et notre vie spirituelle dans le cadre véritable dans lequel il est aujourd'hui, qui est dans un sens cette histoire du salut que le Seigneur est en train de réaliser. Et il y a des images ici un petit peu fortes lorsqu'on les prend vraiment au pied de la lettre. C'est que l'apôtre nous dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. En parlant de toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la vie, toutes ces personnes sont là. Et leurs témoignages nous servent aujourd'hui. Et c'est à cette même histoire que nous participons. Votre histoire n'est pas une histoire simplement de 2012 dans le pays de Gex en Europe. Notre histoire est avant tout celle des gens qui ont eu la foi, qui ont fait cette démarche de foi et qui sont en marche vers leur patrie céleste pour cette restauration complète et finale que le Seigneur a commencée. C'est là la véritable histoire que nous vivons chacun au jour le jour et que nous devons vivre chacun au jour le jour et dont nous devrons être conscients. Bien sûr, nous pouvons prier, nous préoccuper de ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe dans d'autres régions du monde, mais la véritable histoire est celle qui a commencé depuis les temps de Noé. Les gens qui, par la foi, se sont tournés vers le Seigneur et toute l'œuvre que le Seigneur a faite jusque dans la mort et la résurrection de son Fils et aujourd'hui dans le fait qu'il siège à la droite de son Père pour préparer son retour. Et il y a cette expression quand même qui a marqué beaucoup de personnes, mais qui est quelquefois difficile à vivre, mais que nous trouvons dans le chapitre 11, là au verset 13, où il nous dit que toutes les personnes qui nous ont précédés, leur vie spirituelle les a conduits à penser qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Moi, lorsque je regarde l'année 2012, je ne suis pas en train de me dire « je suis un nomade ». Moi, je façonne des projets, je me dis « il y a des choses que je vais faire, je suis bien installé ici ». Voilà, je ne suis pas en train de me dire « je suis un nomade ». Et pourtant, ici, il nous est dit que l'attitude qui découle d'une vie de foi est tout simplement qu'on se rend compte que tout simplement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est passager. Ce n'est pas irréel, ça a du sens, c'est important, mais c'est transitoire et c'est passager. Et non seulement c'est transitoire et c'est passager, mais nous ne devrions même pas chercher à vouloir nous installer dans le monde dans lequel nous sommes. La foi conduit, si on la laisse éclore, si on laisse le Saint-Esprit la nourrir, elle conduit à dire tout simplement ce que j'ai, ce que je suis, ce que je vis aujourd'hui. C'est transitoire, ce n'est pas ici ma véritable patrie, elle est plus loin. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase, parce que on la cite souvent, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, mais d'arriver à la vivre lorsqu'on regarde son année 2012 ou les quelques années qui sont devant nous, ce n'est pas évident, parce que ça remet toutes les choses dans un ordre différent, ça change notre système de valeurs. Peut-être que ça devient plus facile avec l'âge, parce qu'on se rend compte que déjà il y a beaucoup de choses derrière nous, puis de plus en plus, c'est Loulou qui me disait ça une fois, il me dit, tu sais John, pour moi c'est plus facile de penser au retour du Seigneur et de prier pour le retour du Seigneur, parce que j'ai 90 ans, et puis parce que, ben voilà, il est juste à la porte pour moi. Et peut-être c'est plus facile, peut-être aussi parce qu'avec l'âge on se rend compte que des choses qu'on a faites dans la vie, ben c'est un petit peu bâtir sur du sable, et puis que ça ne tient pas toujours. On se rend compte souvent qu'on n'est pas irremplaçable. Il y a beaucoup de gens qui peuvent remplacer et faire la même chose que nous. Et puis on se dit, c'est vrai, effectivement, ce qu'on vit sur Terre n'est pas toujours ce qu'il y a de plus durable. Nous ne sommes en fait que des voyageurs et des étrangers sur cette Terre. Non seulement voyageurs, mais aussi étrangers, où notre système de valeurs n'est pas le même que celui de ce monde. Et vous le ressentez certainement comme moi, il y a des hiatus entre ce que moi j'aimerais voir dans le monde ou les valeurs par lesquelles j'aimerais vivre et celles que le monde parfois vit. Et on se retrouve dans cette opposition et c'est là où nous sentons que dans un sens, ben ouais, c'est pas vraiment notre patrie ici sur Terre. Ainsi donc, lorsqu'on nourrit des projets, lorsqu'on forme des projets et qu'on se fixe des objectifs, ils ne devraient pas être pour s'installer, mais plutôt pour avancer et progresser vers cette patrie céleste que le Seigneur nous promet. La deuxième chose qui nous est donnée pour recadrer un petit peu notre perspective, c'est l'exemple de Jésus-Christ qui nous est donné. Lui qui est dit ici, c'est lui qui a initié notre foi, c'est lui qui la mènera à sa perfection. Et il nous est dit ici qu'il faut le prendre comme exemple. Il ne faut jamais oublier que Jésus a été aussi un homme comme nous, qu'il a dû lui-même aussi porter toute son attention et toutes ses forces pour apprendre à obéir à son Père, à faire la volonté de son Père, et pour tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, pour ensuite être ressuscité et glorifié. Il a vécu un chemin comme le nôtre. Mais ce qu'il y a de différent entre Jésus et les autres témoins, c'est que Jésus, lui, il est allé déjà jusqu'au bout. Et il est le chef de l'Église. Il est celui qui est le premier de toute une série. Nous, en fait, nous courons à sa suite. Mais lui, il est déjà arrivé. Et si lui est déjà arrivé, ça devrait être un encouragement pour nous en disant, notre champion, lui, est déjà arrivé. Il est notre guide. Il est celui qui est en train de nous entraîner à sa suite. Il est certain que nous y arriverons aussi. Et c'est là la deuxième perspective que nous devrions avoir aussi, en recadrant un petit peu notre avenir, c'est de se dire, aujourd'hui nous marchons à la suite de quelqu'un qui nous a précédés dans la vie et qui nous laisse un exemple qui devrait nous inspirer et nous encourager. Et surtout nous dire, c'est possible. On peut y arriver et on y arrivera. La deuxième chose qui est importante dans ce texte, c'est de prendre l'exemple de Jésus qui lui a porté son regard sur le prix qu'il allait obtenir. Et le prix qu'il allait obtenir, il nous a dit, c'est la joie. Et là, c'est là où l'image de la course est parfaite avec ça. C'est que, à un moment, il faut porter son regard, non pas simplement sur les capacités et ce qu'on aimerait faire, mais en fait sur la récompense et le prix qu'on obtiendra en finale. Et le prix, ce n'est pas simplement « je te récompense de tes efforts ». C'est l'image de tout simplement, en faisant des efforts, en allant de l'avant, on peut obtenir quelque chose qu'on n'obtient pas aujourd'hui. Et ici, Jésus, lui, il était motivé par le fait qu'il y avait une joie qui lui était réservée, de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, de la victoire sur l'adversaire, de la justification de tous ses frères et sœurs. C'était la joie qu'il voulait obtenir et qui le tirait de l'avant dans tous ses efforts. Et l'apôtre Paul lui donnera des exemples similaires en disant « Moi, je regarde de l'avant, c'est ça que je cherche à obtenir, mais c'est pour ça que je cours. » Et nous avons tellement de promesses qui nous sont faites de la part du Seigneur. Des promesses de paix, de joie, de repos, de restauration, de réconciliation. Essuyer toutes larmes de nos propres yeux, des choses que nous désirons au fond de nous-mêmes comme tout être humain et auxquelles nous aspirons. Mais nous sommes appelés à avancer pour les attraper et non pas simplement à rester sur place et attendre qu'elles adviennent. Et c'est pour ça que Jésus, lui, a persévéré tout au long de sa vie. Et c'est là où nous sommes invités non pas à dire qu'est-ce que je peux faire par moi-même et puis et tout, mais plutôt de se dire quelles sont les promesses que me réserve le Seigneur et comment est-ce que j'avance pour les saisir comme un prix qu'un coureur va saisir à la fin de sa course. Et c'est là où il y a ce beau verset qui introduit le chapitre 11. Où il nous est dit tout simplement que même vivre par la foi, c'est déjà posséder ce qu'on espère. Par le miracle de l'œuvre de Dieu dans notre vie, la foi nous confère cette certitude et ce bien-être et ce bonheur de posséder même ce qu'on ne possède pas encore. Parce que le Seigneur ancre en nous cette espérance et cette certitude que nous l'obtiendrons. Et énormément de personnes qui nous ont précédés sont allées à la poursuite de quelque chose et certaines d'entre elles ne l'ont pas réalisé dans leur propre vie. Certaines l'ont réalisé, mais d'autres ne l'ont pas réalisé. Mais elles ne se sont pas découragées. Elles ne se sont pas dit « c'est en vain que j'ai couru ». Parce qu'en fait, la pleine réalisation des choses et la réalisation certaine des choses adviendra aussi de façon ultime lorsque le Seigneur reviendra. Mais le Seigneur nous donne, par le miracle de la foi dans notre vie, cette certitude que nous possédons déjà ce en quoi nous espérons. Ce qui fait que nous pouvons contempler cette joie, nous pouvons contempler ce repos, nous pouvons contempler cette restauration, cette réconciliation avec les personnes avec qui nous aimerions être réconciliés, et d'y travailler parce que nous savons que le Seigneur le réalisera. Non pas peut-être, mais plutôt quand? Mais le quand n'a pas d'importance parce que de toute façon, cela arrivera. Et c'est ça la vie de la foi et c'est ça que le Seigneur a mis dans notre cœur. C'est cette certitude de posséder ce qu'on espère. L'autre aspect de notre vie spirituelle qui nous est donné ici, c'est bien sûr ce qui revient à cette question de course et à cette image de la course. Qu'on le veuille ou non, le Seigneur a configuré notre vie et notre vie spirituelle comme étant ce processus de développement et que ici l'apôtre compare à une course spirituelle. Et comme je l'ai dit, Pierre lui-même et Paul l'ont utilisé. Ils ont trouvé que c'était l'image la plus appropriée et adéquate pour décrire la vie à laquelle on est appelé. Dans la vie du chrétien, on se bouge. Dans la vie du chrétien, on ne s'assoit pas pour attendre la fin des temps. La vie du chrétien commence par on est nourrisson dans la foi. On apprend et on grandit. Dans la vie spirituelle, on apprend, on reçoit des talents, mais on les exerce pour devenir ensuite maître dans les talents qui nous sont donnés. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le sport, l'effort n'est pas quelque chose auquel on peut échapper. Dans le sport, on ne peut pas obtenir les résultats et obtenir les succès que l'on vise si on ne fait pas d'efforts. C'est inhérent à la pratique du sport. Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser que vous pouvez envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques et qu'ils vont gagner si entre-temps il n'y a pas eu d'efforts et de pratique. C'est inhérent au sport. Et même certains entraîneurs et certains psychologues aujourd'hui diront il faut aimer l'effort. Il faut aimer quelquefois lorsque ça fait mal. Parce que c'est là où on sent qu'on est en train de donner le maximum de soi-même et c'est là où on bute à certaines limites qu'on se dit « je vais franchir ». Parce que je veux les franchir, parce que le prix se trouve juste au-delà. Il n'y a pas un sportif aujourd'hui qui est arrivé au résultat auquel il est et que nous admirons sans avoir souffert, sué, travaillé, s'imposer des disciplines pour en fin de compte avoir la joie de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes et d'être acclamé par tout le stade. Et lorsque l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilisent cette image et le développement qui suivra derrière, c'est que les efforts et même quelquefois la douleur et les épreuves font partie intégrante de notre vie spirituelle. Et que quelque part, il faut vouloir arriver à être confronté à ses limites pour les repousser, pour saisir ce prix. Et tout entraîneur sportif vous dira que le moindre sportif qui essaye de prendre des raccourcis, de ne pas s'imposer la discipline, de toujours rester en deçà de l'effort, etc., et tout, n'arrivera jamais. Le talent ne suffit pas. Il faut du travail. Et c'est ce qui nous est donné ici, aussi comme élément dans notre vie spirituelle. C'est de faire ces efforts pour continuer à repousser. Alors bien sûr, il y a des moments où la route est plus simple, on peut courir plus vite et plus longtemps parce qu'il n'y a pas d'obstacle qui nous gêne, le vent nous porte, ça va très très bien, nos performances sont meilleures. Il y a d'autres moments où on sera en train de courir sur un terrain accidenté ou en montée, puis avec un vent contraire et de la pluie et de la neige, etc. Et là, on ne pourra faire que marcher. Mais ça n'a pas d'importance, parce que nous sommes toujours dans ce processus d'avancer et de progresser. Et ici, l'auteur va continuer plus tard en parlant de tout simplement les épreuves, qui sont en fait des instruments que le Seigneur utilise, premièrement pour manifester son amour, mais aussi pour nous faire avancer. Non pas comme des coups de fouet, mais plutôt comme cet athlète qui repousse les limites de ce qu'il est capable de faire pour aller remporter ce qui lui est promis. Ça fait partie de notre vie. Et puis le dernier élément qui nous est donné ici, c'est de se débarrasser de ce qui gêne. Si on prend l'image du sportif, à un moment ou à un autre, il faut arriver à se débarrasser de ce qui va être une prise au vent, de ce qui peut être pour la lutte une prise pour l'adversaire ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'à l'époque, certains athlètes couraient tout nus, tout simplement parce que leur toge ne les gênait pas pour courir, ou que certains de nos athlètes aujourd'hui, lorsqu'ils nageaient, ils mettaient des combinaisons extrêmement proches du corps et avec des matières qui, où l'eau coule dessus, et ça leur permettait de grappiller les quelques centièmes de seconde pour gagner. Et ici, l'apôtre nous invite en disant, mais non seulement est-ce qu'il faut nous fixer des projets, vouloir aller de l'avant, vouloir repousser des limites, mais aussi des choses dont il faut se débarrasser. Il faut être pragmatique. Souvent, pour réaliser un projet, on est obligé de laisser de côté autre chose. Et ici, l'auteur nous dit, regardez votre vie, mais regardez aussi le péché qui vous tient et regardez-le comme quelque chose qui vous gêne dans votre progression. Trouvez votre motivation à vous débarrasser et à surmonter le péché dans votre propre vie parce que c'est quelque chose qui vous gêne dans votre progression vers le prix que le Seigneur vous propose. Et c'est là où il nous est dit de nous défaire d'un certain nombre de choses. Et j'ai été étonné en lisant et en préparant, même dans certains psychologues aujourd'hui recommandent tout simplement à des moments en disant « Si dans ta vie tu as certains objectifs pour toi-même, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. » Et entre autres, une des choses dont il parlait, c'est que le comportement est quelque chose qui est contagieux, qu'on imite des uns et des autres. Et il nous disait, et certains psychologues disent tout simplement, si tu te fixes certains objectifs dans la vie, fais attention à qui tu fréquentes. Parce que les gens qu'on fréquente ont une influence sur notre comportement. Et donc à certains moments, si tu veux vraiment réaliser un certain nombre de choses dans ta vie, il va falloir que tu vérifies qui tu fréquentes. Et peut-être il y aura certains moments où il faudra tout simplement prendre une certaine distance avec certaines personnes parce que tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux dans la vie si tu le fais. Alors ici, je parle de personnes ou quoi que ce soit, mais c'est la même chose de toute autre forme de péché qui pourrait éventuellement nous retenir en arrière. Et lorsqu'il est parlé du péché ici qui nous enserre si facilement, ça mériterait que chacun d'entre nous réfléchisse à qu'est-ce qui nous enserre si facilement. Moi, il y a certaines formes de péché qui me... C'est pas très difficile d'y résister, ça m'enserre pas très facilement. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proches de moi. Des pièges dans lesquels je tombe plus facilement. Et c'est là où se connaître soi-même est extrêmement important, ou les circonstances dans lesquelles on vit. Un auteur faisait un petit peu la liste de ces choses-là. Il disait, certains d'entre nous ont hérité des faiblesses du passé. Lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur, ou tout simplement de par notre famille, l'environnement dans lequel nous sommes nés, avons été élevés, ce sont parfois des faiblesses que nous avons héritées, que nous transportons avec nous toute notre vie, si nous n'en sommes pas conscients pour les surmonter, c'est des choses qui peuvent nous tirer vers le bas. Il y a des circonstances dans lesquelles nous vivons, nous travaillons, qui peuvent être des sources et des pièges pour chacun d'entre nous. Quelqu'un qui travaillerait dans un bar et dans le milieu de l'alcool, etc. et tout, bien sûr, il y a toujours un piège possible, tout simplement de certains débordements. Quelqu'un qui travaille, qui manipule de l'argent constamment et tout, il y a la tentation, la possibilité de simplement peut-être un tout petit peu de côté. Je suis dans les circonstances. Des gens qui voyagent comme moi, qui sont dans des hôtels des nuits et des nuits, où personne ne nous voit. On a des circonstances qui peuvent être des pièges pour nous et dont il faut être conscient pour ne pas tomber dedans. Et puis, il y a tout simplement, c'est vrai, notre caractère. Certains d'entre nous seront plus faibles dans certains domaines ou fruits de l'esprit que d'autres. Et c'est là où se connaître peut être très utile pour mieux progresser. Et tout sportif se connaît bien lui-même. Il connaît ses limites. Il connaît ses forces et c'est comme ça qu'il avance. Alors, chers amis, en conclusion, j'aimerais tout simplement qu'on, ayant regardé un petit peu ces différents aspects de la façon dont nous pouvons vivre et nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne, c'est de peut-être se souvenir un petit peu de ce à quoi nous sommes appelés. Parce que là aussi, il y a des choses où, quelquefois, on imagine, nous sommes appelés à de grandes choses, des choses extraordinaires. Nous devons faire des choses qui dépassent l'entendement, qui en mettent plein la vue à tout le monde. Mais j'aimerais quand même rappeler quelque chose qui sont fondamentales, me semble-t-il, dans les Écritures. La première, c'est tout simplement de se rappeler que, oui, notre vie est une course. Dans le sens, non pas de courir même si vous êtes fatigué, mais dans le sens de ne pas vous arrêter. Ou si vous arrêtez, c'est temporairement pour reprendre la course après. Sur cette terre, il n'y a pas un moment où nous sommes arrivés avec le Seigneur. Le Seigneur veut continuer de nous façonner. La deuxième chose, c'est que peut-être la première chose à laquelle nous sommes appelés, c'est tout simplement la transformation de notre personne et de notre caractère sous l'action du Saint-Esprit. Combien d'entre nous peut-être regardons plus nos activités, ce que nous faisons dans l'Église et pour les autres, plutôt que ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie ou notre ouverture et disponibilité à être transformé par le Saint-Esprit. C'est plus facile d'aligner un certain nombre d'activités, de faire des choses avec d'autres et qui sont bien dans le cadre de l'Église. C'est beaucoup plus difficile de dire, Seigneur, avant tout, c'est à la transformation de ma personne à laquelle je suis appelé. Et que le fruit de l'Esprit, ce n'est pas tellement le nombre d'activités que vous accomplissez, que c'est les traits de caractère que vous adoptez et qui deviennent les vôtres sous l'action du Saint-Esprit et ceux dont vous vous débarrassez. Donc vos projets de vie doivent avant tout, et nos projets de vie doivent d'abord être des projets de notre propre personne, ce que le Seigneur veut faire dans notre propre vie. Ensuite, me semble-t-il, il y a tout simplement, dans le comportement de tous les jours, dans le moindre comportement, à vivre d'une façon qui est digne de l'appel du Seigneur. Encore une fois, pas nécessairement faire toutes sortes d'activités extraordinaires, mais d'avoir cette constance et cette persévérance dans les moindres petits détails pour être le reflet de l'œuvre du Seigneur dans notre vie, pour être un moyen de bénédiction pour d'autres personnes, pour être une source d'amour et de réconfort pour d'autres, pour être au service des uns et des autres. Bref, de vivre l'amour les uns avec les autres. Et puis bien sûr, peut-être en finale, c'est de se rendre disponible pour pratiquer toutes les œuvres bonnes que le Seigneur veut pour nous. Et il y a des choses particulières auxquelles le Seigneur nous appelle dans nos activités, mais c'est d'abord et avant tout l'idée d'être disponible pour le Seigneur afin que nous puissions entendre ce que lui souhaite que nous fassions et que nous ayons toujours, comme Samuel, cette oreille tendue pour entendre l'appel du Seigneur pour exécuter ce qu'il souhaiterait que nous fassions. Chers amis, que l'année 2012 soit une année bénie pour vous, non pas simplement de succès dans votre propre vie terrestre, mais au contraire bénie de l'œuvre du Seigneur dans votre propre vie, afin que, au 31 décembre prochain, vous puissiez regarder de nouveau au 1er janvier et vous dire, voilà le chemin que j'ai parcouru avec le Seigneur, voilà les différences ou ce que le Seigneur a pu faire dans ma propre vie, et oui, je ne suis plus la même personne, et je continue ma course. Et que vous qui peut-être êtes fatigué pour une raison ou une autre, vous avez l'impression que tout simplement vous ne pouvez plus courir, mais vous marchez. Ça ne fait rien. Persévérez. Parce que le Seigneur nous dit aussi qu'il renouvellera les forces des uns et des autres pour continuer. Et le Seigneur renouvellera vos forces. Et il sait les forces que vous avez. Donc, regardez vers l'avenir. Ne regardez pas vers la crise qui nous attend ou les crises qui nous attendent, mais plutôt regardez au prix que vous voulez remporter avec le Seigneur. N'oubliez pas qu'autour de nous, il y a des millions et des millions et des millions de chrétiens qui nous ont précédés. Et leur propre témoignage atteste du fait que la course que nous courons n'est pas vaine. Je vous invite à quelques instants de prière, quelques instants de silence, puis je terminerai par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui reste actuelle. Et au début de cette année, pour ces versets qui vraiment nous aident à mieux cadrer cette nouvelle année. Qui nous aident à porter notre regard sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, mais aussi sur le projet que toi tu as pour nous et pas simplement nos propres projets. Et Seigneur, tout cela, c'est pas, tu ne le fais pas non pas dans le but de nous étouffer, mais au contraire de nous faire naître vraiment à la vraie vie et de nous faire progresser dans ce que tu as en réserve pour nous, qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alors Seigneur, je te demande que chacun d'entre nous soit non seulement ouvert à ton action dans notre vie cette année, mais plutôt la recherche. Par la lecture de ta parole, par la prière, Seigneur, par l'ouverture à l'œuvre de ton esprit, à ce que nous pouvons apprendre par les exhortations de nos frères et sœurs, nous te demandons, Seigneur, que tu nous façonnes, que tu nous aides à grandir dans notre foi, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, Seigneur, dans un an, mais que nous puissions regarder en arrière et voir cette œuvre que tu continues de faire en nous, nous transformant de gloire en gloire, Seigneur, à l'image de ton propre Fils. Seigneur, je te demande de renouveler les forces de ceux qui sont fatigués au début de cette nouvelle année, de ceux qui veulent peut-être se résigner, baisser les bras en disant « c'en est trop, je n'en ai plus la force ». Seigneur, je te demande que tu leur donnes du répit, mais aussi que tu renouvelles leur force, que tu les aides, Seigneur, à faire un pas à la fois, mais en sachant que tu es là à côté d'eux et que tu les emmèneras jusqu'au bout. Et que, Seigneur, la joie puisse être dans le cœur de chacun, comme ce prix final que nous voulons remporter tous ensemble. Au nom de Jésus. Amen.